France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Barbara Lotto, Frédéric Kiefer, Youtou Diego Ac Lopez et Olivier Dehay. Voici la première de deux émissions que nous allons consacrer à la pianiste Idil Biret, qui a fêté la semaine dernière ses 80 ans, avec un petit peu de retard, joyeux anniversaire, chère madame. Elle qui est née le 21 novembre 1941 à Ankara, capitale de la Turquie, qui était alors sous la présidence de Mustafa İsmet İnönü, surnommé Milli Chef, le chef national. Idil Biret, qui est toujours resté fidèle à son pays natal, évoqué avec beaucoup de fantaisie par Wolfgang Amadeus Mozart. C'est au Festival de Lille, en 1993, que la pianiste Idil Biret avait enregistré la 11e sonate en la majeure Köchel 331 de Mozart, qui se termine avec ce célébrissime rondo alla turca. Je n'ai pas résisté à l'envie de vous faire entendre cette musique par une pianiste turque, Idil Biret, enfant de la Turquie, mais dont la seconde patrie est la France. Ses maîtres à Paris, s'appelant Alfred Cortot, mais aussi Nadia Boulanger au Conservatoire supérieur de musique de Paris. Il faut citer également le troisième maître qui a parfait la formation d'Idil Biret, à savoir le grand pianiste Wilhelm Kempff. C'est un parcours au long de l'histoire de la musique, de Jean-Sébastien Bach à Pierre Boulez, que je vous propose de parcourir aujourd'hui et demain, entre Beethoven, Schumann, Chopin, Brahms, Franck, Ravel, Debussy, Scriabine, histoire de se faire une idée de la carrière discographique d'Idil Biret. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, la plupart des enregistrements que vous allez entendre sont issus de ses archives IBA. Idil Biret Archive. Elle avait 74 ans en 2015, Idil Biret, lorsqu'elle enregistrait la première partita de Jean-Sébastien Bach. Nous écoutions cette courante, première partita BWV 825. Idil Biret, qui dans sa discographie, dans ses enregistrements, s'est lancé dans des véritables marathons, comme l'intégrale de l'œuvre de Frédéric Chopin en 15 volumes, l'intégrale Brahms, mais l'intégrale ici, mais y compris dans des exercices techniques de Brahms qui sont enregistrés par Idil Biret. Et puis elle nous laisse également un enregistrement de 85-86 qui nous permet d'entendre les symphonies de Beethoven, des symphonies transcrites au piano par Franz Liszt. C'est en 1838, à 27 ans, que Liszt avait transcrit pour le piano les symphonies numéro 3, 5, 6, 7 de Beethoven. Et puis des années plus tard, l'éditeur Breitkopf et Hertel s'étaient dit mais pourquoi ne pas compléter ce cycle pour faire les 9 symphonies. C'était en 1863, par exemple, avec cette première symphonie en Do majeur, l'opus 21 de Beethoven, dont voici le final dans cette version de Franz Liszt au piano, Idil Biret.
Thank you.
J'ai joué les symphonies de Beethoven étant enfant et je les connaissais toutes pratiquement par cœur. Il est certain que si je ne les avais pas jouées avant d'enregistrer mon intégrale, j'aurais eu beaucoup plus de problèmes. La seule difficulté provenait de la version à laquelle je m'étais habitué et qui était la transcription faite d'oreille que je m'amusais à jouer à la maison. Il fallait donc redoubler d'attention en jouant la version de Franz Liszt et ne pas revenir à mes habitudes antérieures. Témoignage d'Idil Biret dans un livre intitulé « Une pianiste turque en France » de Dominique Xardel chez Bûcher-Chastel de Idil Biret, qui jouait donc ce final de la première symphonie en Do majeur, l'opus 21 de Beethoven, transcription de Franz Liszt.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Voici maintenant la musique de Robert Schumann qui porte l'opus numéro 1. Ce sont les variations à beg avec des notes de musique qui sont la si bémol, mi, sol, sol, qui sont répétées plusieurs fois dans cette charmante partition, délicieuse partition, interprétée par notre héroïne de la semaine.
Thank you.
Variation sur le nom d'Abegg, A-B-E-G-G, en fa majeur, c'est l'opus 1 de Robert Schumann qu'interprétait ici Idil Biret qui a été, je le disais, disciple du grand Alfred Cortot, et ce pendant 2 années. Cortot était très exigeant et ne me passait aucun détail, il était la sévérité personnifiée. Peut-être qu'il voulait juguler une certaine tendance au désordre que j'avais à cet âge. Pendant les 2 ans où je travaillais avec ce très grand maître, je lui jouais un nombre considérable d'œuvres, tout le répertoire pianistique semblait l'intéresser, mais nous concentrions davantage sur les compositions de Chopin, Schumann, Beethoven, Debussy et Ravel. Cortot n'admettait aucune faiblesse technique. Un jour, il fut fâché lorsque je ratais à la main gauche la série d'octaves dans la fantaisie de Chopin et demanda aussitôt de jouer des arpèges en octaves pour vérifier l'état de ma technique. Il me donna aussi le conseil de me concentrer sur la ligne montante des octaves de la main droite. La main gauche suivrait automatiquement, dit-il. Il avait raison. J'avais imaginé que M. Cortot adopterait avec moi le même style littéraire qu'il aimait à utiliser lors de ses cours d'interprétation. Eh bien non, pendant ces 2 années, il ne s'exprima que dans un jargon purement musical. En fait, nous travaillions beaucoup au piano et relativement peu de paroles étaient prononcées. Thank you. C'est en 1992 à Heidelberg, dans l'auditorium Claravik, que la pianiste Idil Biret avait enregistré pour la firme Naxos l'intégralité des œuvres de Frédéric Chopin en 15 volumes. Il y a en plus de cela des enregistrements de ses concertos pour piano. Et on entendait à l'instant le prélude en ré bémol majeur opus 28 numéro 15 de Frédéric Chopin. C'est également pour Naxos que Idil Biret avait enregistré le deuxième concerto de Brahms qu'on va écouter pour le final en tout cas, maintenant avec l'orchestre de la Radio Nationale Polonaise dirigé par Anthony Witt. Brahms fut un compositeur que je découvris très jeune grâce à Madeleine de Valmalette. Je pensais immédiatement que c'était une musique que j'aurais voulu composer. J'avais 7 ou 8 ans à l'époque. Le compositeur turc Nevit Kodaly, lui aussi, parlait souvent de la science de Brahms en tant que compositeur admiré, ses œuvres de musique de chambre et symphonique. Il ne s'expliquait pas la désaffection dont cette musique souffrait alors en France. Brahms était considéré comme un petit maître, à l'écriture habile mais sans véritable inspiration. Comme j'avais l'esprit de contradiction et m'étais découvert beaucoup d'affinités avec cette musique, je ne cessais de la jouer et de la déchiffrer.
Thank you.
professeure Nadia Boulanger avait, je le savais, beaucoup de tendresse pour la musique de Brahms. Elle avait enregistré avec Dino Lipati les Liebeslieder-Walzer, mais elle ne la trouvait pas convenable pour un enfant. Moi, j'aimais, enfant, le caractère sombre, sauvage, introverti de la musique de Brahms. Surtout pendant mes années de révolte, Brahms me fut très proche. Fin de citation. Brahms, joué par Idil Biret en 1996 à Katowice, dans le sud-ouest de la Pologne, avec l'orchestre de la Radio Nationale Polonaise dirigé par Anthony Witt. C'était un extrait du deuxième concerto en si bémol majeur, l'opus 83 de Brahms. Idil Biret, que voici chambriste. Nous reculons dans la discographie, dans la chronologie de cette discographie. En septembre 1980, elle était à Londres pour enregistrer dans les studios CBS le quintet en fa mineur de César Franck avec le quatuor à cordes de Londres, Carl Pini et Benedict Kraft au violon, Ruzon Günnes à l'alto et Roger Smith au violoncelle. Thank you. Le London String Quartet, autrement dit Carl Pini et Benedict Croft au violon, Ruzon Güneş à l'alto et Roger Smith au violoncelle, entouraient le piano d'Idil Biret en 1980 pour enregistrer le quintet de César Franck, dont c'était le troisième mouvement, Allegro ma non troppo, ma con fuoco, et avec feu, bien sûr, avec le feu d'Idil Biret dans ses enregistrements et dans ses témoignages que je vous lis au cours de cette biographie Une pianiste turque en France, réalisée par Dominique Xardel, avec quelques entretiens de la pianiste qui parle par exemple de Maurice Ravel. La profonde originalité et l'univers fantastique de Ravel ne cessent de me fasciner. Je pense à la sérénade grotesque, Mamerlois, L'enfant et les sortilèges, Gaspard de la nuit. L'écriture de Ravel est très listienne par certains côtés, mais pleine d'innovations pianistiques étonnantes. Je pense par exemple à l'utilisation à la descente en seconde dans Scarbo ou l'extraordinaire concerto pour la main gauche. En outre, l'authentique modestie qui se perçoit à travers la correspondance de Ravel me le rend très proche. Fin de citation. Bien sûr, justement, ce concerto pour la main gauche, elle avait enregistré en 1996 avec un orchestre turc en compagnie du concerto en sol. Alors c'est celui en sol que je vous propose d'écouter. En tout cas, le mouvement central, merveilleux et mozartien, Adagio assai au centre de son concerto en sol de Maurice Ravel. Idil Biret est ici donc avec un orchestre symphonique turc, l'orchestre de Bilkent. Bilkent, c'est une université privée d'Ankara, sa ville natale, qui vient de Bilim, qui viendrait, puisque je ne parle pas de turc, bien évidemment, je ne suis pas monsieur Jourdain. Bilim Kenti, c'est la ville du savoir et de la science. Voilà donc diminutif Bilkent. L'orchestre symphonique de Bilkent, dirigé par le grand chef français Jean Fournet, dans ce concerto en sol de Maurice Ravel.
Thank you.
Le mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel avec Idil Biret, accompagné par l'orchestre symphonique de Bilkent à Ankara en Turquie, dirigé par Jean Fournet. Je connais assez Idil Biret pour savoir qu'elle est inconcevablement, inacceptablement talentueuse. Elle dit dans les pages qu'elle a écrites « Un art pour être crédible, ce doit être sans concession ». C'est dans toute son existence qu'Idil Biret refuse la concession, sans raideur pourtant, et sans la moindre ostentation. C'est Claude Samuel qui écrit ces lignes que l'on peut lire dans cette biographie que je citais, qui a été publiée chez Buchet-Chastel. S'il me fallait définir la personnalité d'Idil Biret, je dirais exigence et concentration, poursuit Claude Samuel. Les petits arrangements du milieu musical où nous devons hélas travailler lui sont étrangers et elle ne sacrifiera pas le bonheur de magnifiques intégrales discographiques diffusées dans le monde entier aux pressions des majors, furieux de constater que la concurrence casse les prix sans pour autant appauvrir le message musical. Enfin, ce qui me fascine également chez Idil Biret, c'est à la fois, au-delà de son propre domaine d'activité, l'étendue de sa culture et son impressionnante liberté de pensée. C'est enfin l'originalité d'un parcours professionnel fondé sur des vraies valeurs et qui, à terme, mais il faut être patient, ne peut être reconnu une fois dissipés les parfums éphémères des succès de circonstances.
Thank you.
connaissez l'expression de 7 à 77 ans. Eh bien, elle avait 77 ans, Edith Birette, au moment de l'enregistrement de cette île joyeuse de Claude Debussy. Je dirais même plus, elle avait 77 ans.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Et pourquoi 77? Parce que cet enregistrement a été réalisé dans un château qui se trouve non loin de Namur, en Belgique, le château de Flavine. Alors j'ignore si je prononce correctement puisqu'il y a un W au milieu, j'imagine que c'est Flavine, vous me corrigerez s'il est nécessaire. Et c'est là qu'en 2014, Edith Birette avait déjà enregistré une série de partitions d'Alexandre Scriabine, dont cette étude en si bémol mineur, opus 8 numéro 11.
Thank you.
L'étude en si bémol mineur, opus 8, numéro 11, d'Alexandre Scriabine. C'était Idyl Biret. Idyl Biret qui, pour la firme Naxos, a vendu près de 2 millions de disques quand même, dont l'un s'est vendu à 30 000 exemplaires. Et ce n'est pas un disque ordinaire, puisqu'il s'agit des trois sonates pour piano seul de Pierre Boulez, vendues à 30 000 exemplaires lorsque j'ai reçu la proposition fin décembre 1994 d'enregistrer le février suivant les trois sonates de Boulez. Je n'avais joué que la deuxième sonate que j'avais aussi enregistrée aux États-Unis. Il me fallait apprendre la première et la troisième. J'ai donc dû travailler énormément pendant quelques semaines, mais cela en valait la peine. J'avais souvent joué la deuxième sonate en concert. C'est une œuvre qu'il faut exécuter avec beaucoup d'audace et de panache, sans trop réfléchir au risque. Un jeu prudent ne peut certainement pas rendre justice à cette sonate qui, par son écriture même, est dans la lignée des œuvres importantes écrites pour le piano et où la virtuosité tient une place prépondérante. Je crois qu'idéalement, il faudrait, pour donner libre cours à l'élément de spontanéité et de risque, jouer ces sonates de Boulez par cœur. Quel luxe ce serait si nous pouvions réaliser le parcours de notre choix dans la troisième sonate, rien qu'en nous fiant à notre mémoire. Les premières notes de la troisième sonate de Pierre Boulez, interprétée par Idyl Biret. Voilà un enregistrement qui a été réalisé ici même, il y a un quart de siècle, début 1995, au studio 106, sous la direction artistique de Hélène Nicolai, aujourd'hui chef d'antenne de France Musique, que nous saluons chaleureusement. Nous allons refermer cette première émission sur Idyl Biret avec un premier concerto, celui de Rachmaninov, toujours avec l'orchestre de la Radio Nationale Polonaise, dirigé par Anthony Witt. Thank you. L'Orchestre National de la Radio Polonaise, dirigé par Anthony Witt, accompagné de la pianiste Idil Biret, dans cet extrait de Rag 2, premier concerto de Rachmaninov. Bonjour, Yonan Esparza.
Bonjour, François-Xavier Somchak, suite de la Divine Idylle demain?
Absolument, belle idylle, joli jeu de mots, merci beaucoup Lionel, avec des classiques du répertoire Scarbo de Ravel, deuxième concerto de Liszt, et puis des curiosités comme ce concerto de Jules Massenet, ou encore la réduction pour piano de la Symphonie Fantastique de Berlioz.
Eh bien, ce sera dans les arabesques. À demain.
À réécouter sur francemusique.fr.